est vraiment très content qu'il y ait autant de monde ici présent, de toutes les générations, parce que là, on va avoir des gens, voilà, des gens des années 90 et même d'un peu plus près qui vont parler juste après Chichi. Je me présente, je suis Nicolas Lalèche, je suis membre du collectif Pind et je suis chercheur associé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et à titre personnel, je suis aussi très content de pouvoir modérer dans cette journée à Montpellier parce que voilà, Montpellier, OTH, c'est quelque chose de personnellement hyper important pour moi. Et je remercie les gens présents, ceux qui sont pas dans le programme, mais qu'on est content de voir. Et ceux qui sont, et j'ai une pensée aussi pour ceux qui sont excusés pour cause de décès. Voilà, on pense fort à eux. En guise d'introduction, on a quelqu'un qui s'appelle Chichi, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Et ce que je te propose, c'est de faire l'historique à peu près de ce que tu as fait entre années 80 et jusqu'à aujourd'hui, pour dire du Chichi de 14 ans qui fait son premier concert à Latte au Chichi de 2019. Qu'est-ce qui a changé?
Comme on disait tout à l'heure, le week-end, on voyait au TH en répète. On a eu des copains, on a des copains qui ont monté des groupes. Et en novembre, c'était mon anniversaire. J'ai dit, on va faire mon anniversaire. On était à Latte. Voilà, c'était plus facile d'accès. On a eu le foyer rural. On a fait jouer les gardiens du Canigou. les Blums, c'est les scélérats, il me semble. Et après, tous les ans, pendant 3 ans, on a fait un festival rock à Latte en 88-89. Et la deuxième année, c'était déjà les Bananes Métalliques.
Et donc, à l'époque, ton but, c'est de faire jouer vraiment... Ouais,
faire jouer les copains, en fait. Voilà. Puis, il y avait des concerts un petit peu partout. C'était Gilles, déjà, des vierges qui nous aidaient à organiser ça. Pour trouver la sono, pour faire la sécu. Voilà, les anciens déjà nous aidaient à ce moment-là, en fait.
C'est-à-dire que vraiment, voilà, ces anciens dont tu parles, des gens des Vierges, est-ce qu'il y avait d'autres personnes?
Voilà, il y avait Philippe déjà à l'époque qui était là, et ceux avec qui on a monté la TAF plus tard, qui sont encore là, voilà, qui nous ont aidés dès le début, parce qu'eux, ils ont organisé des concerts à l'époque à la Sardine. Et nous, comme on était jeunes, on allait flyer, afficher des affiches. C'est eux qui ont fait venir tous les groupes Crypt, d'Alternative Tentacle et tout ça sur Montpellier. Donc c'est eux qui ont amené Nine Pound Hammer, John Spencer, tous ces groupes-là en fait. Et notamment, on collait toutes les affiches des Vierges et des Météores, forcément. Ça a commencé comme ça.
Et donc à ce moment-là, quand tu programmes, c'est pas forcément... Il n'y a pas forcément que du punk que tu veux mettre en avant, c'est tout style.
Non, là c'était vraiment tous les copains en fait, voilà, qui jouaient. Y avait la deuxième année, on était Psycho, il y avait les Jungle Kids, donc du coup sur le même label, il y avait les Bananes Métalliques, et puis c'est parti comme ça.
Et quand est-ce que tu te dis que ça peut devenir un moyen de... Parce que là maintenant t'as la TAF, t'as le Secret Place. Quand est-ce que tu te dis que ça peut être un moyen de gagner ta vie avec ça?
Moi je suis parti comme beaucoup de gens à Montpellier pendant quelques années. Quand je suis revenu en janvier 96, il n'y avait plus tous les concerts en fait. Le doyen avait disparu, le Boscope c'était la fin. Le Rockstore, il y avait un X, la Cadillac qui était violette avec des paillettes, il n'y avait que des DJ. Donc c'était un petit peu l'angoisse la plus totale. Ce qui racontait Phil avec le début d'OTH, les années 95, c'était l'enfer. C'était le début de la techno, le rock, il n'y en avait pas. Et le seul truc qui faisait de temps en temps des concerts, c'était la pleine lune. Donc voilà.
Et le Grunge, il y avait pour toi, années 95-96, le Grunge, c'est déjà fini?
Ouais, mais il n'y avait pas de concert en fait. Il n'y avait pas de concert ici. Du coup, on s'est dit, comme tout le monde, on va prendre le local.
Il y avait un endroit rebouché avec les
keufs
qui descendaient à chaque fois.
Le New Feeling, mais c'était 97-98.
Non, je regarde.
Rakam. Oui, bon, Rakam, mais c'était le bar à Gaïa.
C'était qui jouait, qui ramène, machin et tout, ça fait.
Oui, mais c'était 96, je crois.
Il y avait un autre truc qui était en bas de la école.
Une tabule.
C'était le New Food.
La chapelle de Gamelini, c'était après, c'était 98. Le Rakam, c'était 96. Ça a fermé 96. Il y a eu 12 ans.
Il était laïque, là, le truc était gone avant, non, les jeux.
La très jeune vie de l'Arte. Et bien, c'était le Notambule, en fait.
Et voilà. Lumière Sardine.
Ouais, mais ça, c'est pareil, c'était 97, 98, comme le Bouhop.
Ah oui.
Et il y a eu un gros trou, et après, tout le monde s'est remis à en faire vers 98, 99, là. Et comme il disait, là, l'arrivée de la techno, ça a été un enfer, hein. Il y en a plein qui sont partis là-dedans.
Ah
ouais,
Lumière Sardine.
Et donc, toi, il a jamais été question de. Quoi que ce soit, de toucher à la techno, ça fait vraiment rock.
C'est même pas la peine de penser que. J'ai travaillé pour les machines pendant 10 ans, j'ai jamais été réceptif à leur musique. C'est... Mais le truc, c'est ça, c'est qu'on a pris un local à Vandargues, qui servait de local de répète. On s'est dit, on va faire un concert par mois pour payer le loyer. Et en fait, c'était un par semaine. Après, on s'est fait virer. Voilà. Et après, on a mis un an pour trouver le local à Saint-Jean-de-Védas. Oui, c'était délibéré, par contre, de ne pas être en ville, parce qu'on s'est dit qu'on aura des problèmes de bruit. Avec le temps nous a donné raison. Et après, oui, on a mis une dizaine d'années. On a pris en 2000, on a ouvert officiellement en 2008.
Quoi. Oui, donc, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe entre 8 ans de quoi
8 ans, eh ben, le local s'appelait Secret Place, comme ça on l'a piqué, ça au teufeur. Il y avait un infoline, les gens ils appelaient, c'est ce que disait tout à l'heure Thierry. On envoyait des textos, on appelait les gens, et on faisait des flyers juste avec le numéro de téléphone en fait.
Et donc à ce moment-là, vous fonctionnez vraiment que par téléphone, pas d'autre.
Comme ça, ouais. Ou même sur les affiches, on écrivait que Secret Place en fait.
D'accord. Et donc, voilà, ça ouvre en 2008. Officiellement, 2008. Ouais. Et donc, à ce moment-là, 2008, pour, par exemple, pour voir les concerts, est-ce que vous êtes.
Là, après, site internet, on a eu un magazine qu'on a fait pendant 14 ans, qu'on tirait à 40 000 exemplaires, on avait une émission radio. Donc voilà, c'est.
Je
suis mis sur tous les médias.
De vraiment parler de micro, parce qu'on n'entend pas.
Oui, en fait, on avait comme Bobby disait tout à l'heure, il était au Caucasine, moi aussi. Donc, c'était toujours. On maîtrisait notre com parce que nous, on faisait. Quoi. On était au Mirador de la Sardine, puis au Caucasine. Le Caucasine, c'était sur. Quand on avait rencontré les gars de Lilo à Paris, en fait, voilà, ils nous avaient filé. On était monté à Paris, on s'était rencontrés, vous avez expliqué comment faire.
Oui, le mensuel qui voilà, indique
les oreilles.
C'est ça, je me souviens plus de la chronique. Et donc, ensuite, qu'est-ce que tu n'as pas fait non plus que la taf autour dans la biographie que tu nous as envoyée, tu as quand même.
Non, à côté, on a un label. Ce mois-ci, on a sorti le 9e disque en coproduction avec les Washington Dead Cats. C'est fait depuis 2005 qu'on est avec eux. C'est le 53e disque depuis 2005 qu'on a sorti. Voilà. Généralement, on ne fait pas beaucoup de disques, on n'en fait que 3 maximum par an.
Le but, c'est que ton activité, ça reste centré autour de l'organisation des concerts.
L'organisation des concerts et les. Et les tournées, quand on sort un disque, on monte une tournée avec le groupe, généralement pendant un an, une année.
Et qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te plaît dans l'organisation des concerts, qu'est-ce qui te donne envie de continuer au bout de 20 ans?
Là, déjà, c'est voir un groupe dans un endroit qui nous appartient et qui ne serait pas venu à Montpellier. Ils parlaient d'Exploited avant qu'on le fasse nous, ils n'étaient jamais venus. Cockney Reject, pareil. GBH, pareil. En fait, il y a beaucoup de groupes. Tout à l'heure, vous avez montré là, ce matin un fly avec Chelsea en 77. La première fois qu'ils sont venus à Montpellier, c'était l'an dernier. Donc, ils parlent tous de référence musicale punk, mais ils ont mis longtemps. Quand Anti-Clockwise a ouvert pour Discharge il y a quelques années, là, il y a 3-4 ans, 5 ans peut-être maintenant, c'était la première fois qu'ils venaient. Les groupes anglais ne venaient jamais ici, en fait. Les groupes anglais ou américains venaient pas à Montpellier, quoi, jusqu'à la fin des années 90.
C'est pour ça que maintenant, avec la TAF, par exemple, vous pouvez faire de gros festivals punk, genre Weekend Sauvage ou See You in the Pit, où il y a vraiment de...
Voilà, oui, cet été, on fait 10 dates hein, sur 2 mois, où il y a Municipal West, Terror, toute la scène hardcore, en fait, actuelle.
Et en plus, on parlait d'Internet tout à l'heure, moi, je ne suis allé qu'une fois à la TAF, mais pour entrer à la TAF, il faut adhérer. Et ça vous donne le droit ensuite d'être intégré à la mailing list et ça permet de voir que très 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 régulièrement, il y a tout le temps.
Tous les 15 jours.
Tous les 15 jours.
Même sans, tu reçois ta newsletter.
C'est ça, même sans habiter à Montpellier, mais je me dis, ah ouais, quand même.
Tu peux mettre en jacquard, c'est quand même marre.
C'est intéressant de voir aussi les groupes qui continuent à tourner, qui des fois paradoxalement vont pas forcément aller tourner à Paris, mais vont passer par la Secret Place, etc. Et est-ce que t'as quand ces groupes-là viennent, t'entretiens quel genre de...
Après, maintenant que tu reçois la newsletter, tu verras avec les groupes avec lesquels on s'entend bien, en fait. Parce que généralement, les artistes qui reviennent, il y a des groupes qui sont abonnés maintenant chez nous, Agnostic Front. Ils sortent un disque, ils viennent. Napalmless, je crois qu'ils sortent un nouvel album, je crois que c'est la 8e fois qu'ils viennent. Les Washington, ils ont joué 11 fois en 15 ans. Il y a des groupes avec qui on entretient des... Voilà, c'est devenu plus des potes que... Du coup, à chaque fois, on profite de la tournée pour qu'ils viennent et qu'ils restent certains quelques jours, quoi.
Et la Secret Place, sur les t-shirts, c'est marqué « Home of Underground Rock ». Est-ce que tu penses que tous les groupes que tu fais jouer la Secret Place rentre dans cette définition-là? Est-ce qu'ils correspondent tous? Est-ce que c'est tous des groupes de rock underground?
Non, parfois. Je sais pas. Disons, s'ils viennent jouer chez nous, c'est qu'ils remplissent pas des grandes salles. Donc oui, je sais pas. Je sais pas comment te dire l'underground. Pour nous, c'est des groupes connus. Pour la personne lambda, ça va être un groupe totalement inconnu. Ce qui nous paraît. Un groupe majeur pour nous, comme les Dead Kennedys, pour la personne qui sort dans la rue qui dit Dead Kennedys, ils vont pas connaître. Donc, c'est toujours l'underground de quelqu'un. Surtout maintenant où les chapelles, elles sont divisées, il y a le black metal, le true metal, le machin, t'arrives pas à suivre. Il y a l'underground tout le temps, n'importe quel style, maintenant, il y a des divisions en 2 ans. Quoi.
C'est pour ça qu'aujourd'hui tu as beaucoup parlé, aujourd'hui tu dis t'as dit le punk c'est le hardcore.
Disons non, le punk c'est pas devenu. Disons il y a le punk, ouais, mais pour moi, mais après, comme il disait, il y a eu la deuxième vague, Discharge, qui a donné l'envie à des groupes américains. Après c'est devenu le hardcore, il y a le hardcore straight edge, le New York hardcore. Et après maintenant il y a une autre vague de métal. Chaque génération amène sa musique.
Est-ce que tu estimes, par exemple, à l'échelle de la France ou sur Montpellier, qu'il y a t'as encore des groupes, des territoires que tu n'as pas encore explorés, des groupes que tu aimerais encore faire jouer au bout de...
Sinon on arrête.
C'est-à-dire toujours.
Il y a forcément des groupes que tu découvres et que. Moi j'avais jamais fait une Municipal West, ça fait 4 ans que je leur cours, ou 5 ans que je leur cours après. Quand tu me dis ça y est, ils sont sur l'affiche, ils viennent, je me dis celui-là au moins on l'a fait. Il y a toujours une envie de voir revoir des groupes qu'on a vus plusieurs fois, c'est bien. Mais c'est bien de faire plein de nouveaux groupes et ceux qui tournent, ceux qui arrivent et en découvrir d'autres. Quoi. Donc la motivation, c'est aussi faire venir des trucs qu'on n'a jamais vus. Et après, il y a des concerts qui deviennent mythiques. Soi-disant, tout le monde a vu les Eyes au Rockstore quand on les a fait. Et il n'y avait personne. Donc, proportionnellement, quand on en parle, je devrais être riche ce jour-là. Et on n'a même pas fait 100 personnes, tu vois. bien, tout le monde te dit j'ai vu les Hives au Rockstar. Bah, c'était pour la première ce titre. Il y a plein de groupes comme ça qui sont devenus des concerts qu'on a fait. Et avec le temps, on te dit ah, j'ai vu Refuse dans Rockstar. Ah ouais, toi aussi, mais pourtant on était 40, tu vois. Donc, bon, ben voilà.
Je me demandais aussi, est-ce qu'il y a, quand tu es à la tâche, il y a toujours des photos des concerts passés dans le hall d'entrée ou pas ?
Tu dis qu'il faudrait qu'on échange plus souvent, c'est ça ? Non, je suis d'accord, on est un peu fainéant de la déco photo, mais on essaye de l'échanger tous les 2-3 mois. Quoi.
Vous les aviez mis dans quel but pour montrer aux gens ce que vous avez fait ou par...
Non, en fait, c'est les photographes généralement qui viennent et hop, qui nous disent oh, ben, j'ai une expo à mettre et voilà. Donc, on ne fait pas de sélection.
C'est la déco ludique.
Ludique, tu entends quoi dans...
On voit le travail d'un photographe, ouais. On voit un concert, on n'était pas, et on voit des choses. Ouais. Je suis d'accord, ça pouvait changer tous les soirs.
Non, bah, je ne sais pas forcément ce que je disais, mais moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais allé voir les Flesh Tones, et ça m'avait marqué, c'était plutôt des groupes plus anciens, etc., une manière de dire, il y avait les UKSUBS, il y avait OTH,
le photographe qui exposait à ce moment-là, c'était un vieux.
Ok.
Ouais. Là, le mois dernier, pendant 2 mois, là, il y a eu une expo, il y avait des groupes de métal et de black metal. Alors, hein. C'est la photographe à 21 ans.
D'accord. Et depuis que tu es programmateur, est-ce que j'estime qu'il y avait, dans ta manière de faire ton métier, il y a des choses qui ont particulièrement changé, des choses qui ont été rendues plus compliquées, plus faciles.
Tout s'est professionnalisé. En fait, avant, on était déjà, nous, à notre niveau, en tout cas moi, j'étais complètement à l'arrache, je m'en aperçois maintenant. C'est le paradoxe du punk, quoi. Maintenant, il y a une usine à punk rock qui allait à Rennes. On passe un coup de téléphone, ils envoient une info cheat, comme ils disent, un contrat, la facture, 9 mois avant, il faut faire une avance. Tu vois, le punk, c'est bien structuré. Hein.
C'est peut-être
on n'est pas à la télé, tu peux citer Rechnas.
Ça veut dire que c'est peut-être le signe que des fois, pour durer, tu es obligé d'un peu structurer.
Ah ben, de toute manière, on est en 2016, tu parlais bon, en 2016, mais là, on est en 2019. Tu es obligé d'être structuré. Il y a une condition de sécurité qui passe tous les 3 ans. On fait du rock. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans ? Rien. Puisqu'on a toujours des gens sympathiques qui nous envoient une condition de sécurité tous les ans. Une fois, c'est un voisin. Une fois, c'est un bar de Montpellier parce qu'on lui fait de la concurrence. Une autre fois, c'est la voisine parce qu'elle ne nous aime pas. Donc, il faut être aux normes. Il faut les déclarations URSAF parce qu'on a eu des contrôles URSAF. Tout ça, ça n'existait pas en 1996 quand on a eu la première salle. Le proprio, il en avait marre, il nous a condamné les chiottes. On a fait des concerts pendant 6 mois où les gens ils avaient pissé dans la rue. Tu vois, donc je pense que maintenant, ça, c'est pas possible. Tu dis aux gens, tu veux pisser, c'est dans la rue. Déjà tout le monde n'accepterait pas. Ouais, mais il y a des trucs qui sont plus possibles du tout. Tu peux pas ouvrir un établissement, ça va être aux normes, ça va avoir des mises en conformité, sans payer la SACEM. Il n'y a pas Monsieur Pecker, je suis en retard, voilà. Le CNV ou toute autre chose. Et punk ou pas, on fait exactement la même chose que celui qui fait de la variété ou Sohan, quoi. On paye les mêmes charges, on a les mêmes contraintes, quoi. Qu'on fasse de la variété ou du punk, on fait la même chose.
Commerciale vous avez ?
Quelle structure commerciale ?
Pardon ?
Vous êtes monté à votre structure, c'est quoi pour votre Secret Place ?
On est à l'association toujours.
Vous avez le sel ?
Ouais.
Ah ouais, c'est toujours en asso. Ouais.
Moi, je ne suis pas salarié, je suis intermittent. Disons, je vais revenir, mais je vis d'autres choses en fait. Je bosse pour d'autres boîtes à côté.
Vous en avez des salariés ?
Pardon ?
Il y a des salariés ?
Ouais.
Combien ?
Il y en a 4 hein, et 4 intermittents.
Vous avez essayé de vous monter en SMAC ?
Pardon ?
Vous avez essayé de vous monter en SMAC ? Ça n'a pas été une volonté de vous monter en SMAC, d'avoir le label SMAC ?
Quoi, il peut y en avoir qu'une par ville.
C'est pas vrai ça, il y en a trois dans le 4 avant
d'autres. Alors, c'est, ils doivent être un système de SMAC éclaté. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des capacités différentes avec des missions différentes. Ça a été soulevé il y a quelques années à la région.
Et à côté de la tâche, il y a aussi donc les studios de répétition. Est-ce que dès le départ, quand t'as créé la TAF, ton but c'était aussi de créer un lieu pour que les gens puissent, que des groupes puissent...
À la base, ça a d'abord été des locaux de répétition.
Dans quel but, pour permettre à une
Mais déjà, ceux avec qui on l'a monté sont musiciens, donc c'était pour qu'ils répètent eux-mêmes déjà dedans. Donc c'était par nécessité pour nous-mêmes en direct.
Et après, les concerts, sont...
Et après, les concerts, c'était par plaisir, hein, et puis... 20 ans après, je ne sais pas si on avait su la somme de travail, d'investissement et de problèmes que ça influait sur notre vie privée. Si je recommencerais, je te dirais non directement, je pense.
Tu fais quoi alors ?
Hein ?
Tu fais quoi à la place ?
Peut-être comme beaucoup de gens, organiser des concerts, mais pas sûr que je remonte ma salle.
Faire une organisation qui doit être salle en particulier.
Que ça soit moins long.
Et personne s'est jamais plaint du poteau dans la salle ?
Si, tout le monde. Moi, le premier. Après, le poteau, j'étais à Paris, il y avait la Rapao, il était encore plus à l'aise. Au magasin 4 en Belgique, il y en a un aussi. Le problème, c'est que des salles conçues pour des salles de concert, il n'y en a pas beaucoup, à part les SMAC. Donc tu t'adaptes à l'endroit où tu vas, et quand tu cherches un local dans la région et que tu arrives et tu dis bonjour, je veux faire une salle de concert, généralement le gars il te dit barre-toi et puis voilà. Et comme on n'avait pas l'argent pour acheter les murs, on loue. Donc il faut que tu trouves un propriétaire qui accepte de se signer un bail commercial et que tu puisses faire des modifications de son bâtiment. Donc, les gens s'en plaignent, mais après, voilà, ça accueille du punk rock, on accueille des groupes qui ne jouent pas forcément ailleurs à Montpellier, donc bon, il y a énormément de salles qui ont des défauts en France ou en Europe, bon, ben voilà, celui qui n'aime pas, il ne vient pas. Voilà, je ne peux rien y faire, il y a un poteau.
De toute façon, c'est mieux d'avoir votre propre lieu malgré les emmerdes. Plutôt que d'essayer de trouver un autre endroit.
Un autre endroit, ben, si tu as entre 200 et 300 000 euros, il n'y a pas de problème.
Je vais réserver pour autre chose.
Voilà, donc. Ou alors, oui, un endroit déjà au nord de dormant, peut-être. Non, c'est trop énorme, c'est compliqué. Si tu suis à l'actualité de ce qui se passe en France, notamment à Montpellier, le centre-ville, tous les bars ferment parce qu'ils ne sont pas aux normes. C'est un peu la cata, donc te dire prendre notre endroit et le mettre aux normes, il faut être méchamment argenté, quoi.
Est-ce que c'est pas l'argument maintenant qui nous bassine avec ça pour un problème de sécurité ? Parce que je vois tous les bars qui ont fermé en centre-ville, genre le hub, tout ça, ils ont eu le récalage, la terrasse de machin enlevé, tout ça, des sécurité.
C'est général. C'est pas le hub, c'est général. C'est dur, c'est parce que c'est pas dans le centre.
Oui, mais voilà, mais justement, est-ce que c'est pas l'argument factice pour désinguer tout ce qui fait le rock ?
C'est factice, mais ça
pique. Mais c'est pas vrai,
je sais pas, ouais, mais après, si tu regardes, si tous les bars viennent de la musique électro, au centre-ville, ils ferment aussi. Hein. Ils leur interdisent de faire de la musique. Bah, le problème, comme disait Georges Frêche, à un moment, il avait fait une campagne, il voulait concurrencer Barcelone, Montpellier, la ville qui dort jamais. Et il y a 4-5 ans, on a eu une campagne sous Madame Mandreau où c'était un Pierrot qui faisait chut comme ça, comme ça à vos voisins. Et on a la boucade d'anti-bruit. Donc,
apparemment, on aurait enlevé encore des horaires de nuit d'été. Il n'aurait même pas les mettre ce
été. Bah, le problème, ouais, Montpellier est repris par les gens d'un certain âge à argent. On le nettoie. Avant, c'était les étudiants, c'était les artistes qui étaient au centre-ville, et maintenant. Donc il ne faut pas de bruit. Voilà.
C'est là, je crois, du débat.
Parmi une structure, concert, pourquoi qu'on ne s'y voit pas
là. Non, là, c'est politique. En fait.
Non, non, on ne va pas manger la politique du tout. Si on revient au début du débat, le début c'était quand Dunkey nous parlait d'un tas de gens qui avaient voulu une salle, qui s'étaient mis ensemble, qui avaient fait une manif, un concert, etc., et qui finalement l'avaient obtenu. Là on est où? On est carrément à la jointure de la première vie, elle est finie, la deuxième, on n'aura pas, mais enfin bon, on n'a rien à perdre de remonter tout un espèce de groupement et de redemander des lieux, si ce n'est pas des lieux, c'est des transports, si ce n'est pas des transports, c'est des facilités. Il y a, de toute façon, on est actuellement dans une impasse où les gens sont pris.
Ouais, on n'est plus dans les années 80. Je crois que l'État n'a pas d'argent.
Oui, mais on a quand même des solutions.
Donc ça a à le faire en parler.
C'est pas une question stricte, c'est comme ça qu'on va sur cette Regarde le cinéma machin là, Royal. C'est pas une question stricte. C'est est-ce que la mairie ou la localité veut bien prêter le temps qu'ils trouvent les mécènes pour faire des travaux, ça peut durer parfois 10 ans sur certaines structures qu'on a montées en centre-ville, veut bien prêter ces lieux pour que des assos fassent des choses, au lieu de laisser périr toutes les pierres qui tombent une par une.
Ouais, et les races, ouais, donc de la ville, là on parle de politique. Oui. Si tu vas plus loin que ça, si tu vas plus loin que ça, le gars il va ouvrir une buvette, il y a un bar, et le gars à côté, il a un bar, il paye sa licence. Et, tu vois, je veux dire, ils vont prêter ce truc-là. Tu vas faire des concerts dedans, la sauce va vouloir faire un bar. Et le gars qui a la licence 4 dans la même rue, il va péter un câble. Donc c'est pas que je le comprends ou que je le défends, c'est juste que. Politiquement, il a raison, c'est de la politique.
De la jeunesse dans les cités qui s'emmerde, Phil il n'arrêtait pas de tourner autour du sujet, il collait parfaitement. On sait très bien que plus tu mets des structures où les gens peuvent répéter, jouer ou des choses comme ça, on s'exprimer, les graphistes, les peintres, les plasticiens, il faut qu'ils aient des lieux. Et au bout d'un moment, ils n'auront plus rien. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont faire quoi dans la rue?
Je pense qu'on a quelques artistes, graphistes et musicologues qui vont avoir des choses à dire tout de suite. Vu qu'on est un petit peu pressé par le temps, on va te remercier, Fifi. Et on va faire à la table ronde. Alors, il y a Yannick.